Salut les vanlifeux et les vanlifeuses. Bienvenue dans la zone vanlife. Allô tout le monde, ici Mario Fournier pour la Zone Van Life. Bien content de vous retrouver pour ce rendez-vous aux deux semaines pour la Zone Van Life. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes de Van Lifeux et les Van Lifeuses, j'ai fait un avis de recherche. En fait, je recherche des Québécois ou des Québécoises qui veulent ou ont traversé en Europe avec leur VR. Et l'inverse, des Européens qui seraient venus sur le continent ici pour faire de la Van Life. J'ai pas eu aucun Québécois. Il doit en exister, j'en suis convaincu, je ne désespère pas. Mais beaucoup d'Européens l'ont fait et aujourd'hui, je m'entretiens avec un couple. En fait, je m'entretiens avec Damien et Ambrine, Damien particulièrement, qui ont tout un projet ici en Amérique. Ils sont chez nous maintenant depuis 3 mois. Alors, je vais rejoindre via Zoom Damien qui est du côté des États-Unis présentement, mais on va vous raconter leur histoire, pour un projet qui s'appelle Objectif Ushuaïa. Ushuaïa, c'est pas facile à prononcer, c'est en Argentine, c'est complètement au sud de l'Argentine, puis Damien pourra me le confirmer tout à l'heure. Si je me trompe pas, après Ushuaïa, ben là, on arrive en Antarctique. Damien, bonjour, bienvenue dans la zone Van Life.
Eh bien, bonjour et bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ce podcast. Ça me fait plaisir de partager un petit peu notre aventure et sur ce qu'on vit sur la route.
Bien, merci à toi, Damien, d'avoir accepté. D'emblée, je le dis tout de suite, Damien est aux États-Unis. Alors, évidemment, ça se peut que le son, on a un petit peu de difficulté avec parce qu'on fait ça par Zoom. Donc, on va évidemment... Les gens sont compréhensifs dans ce temps-là. On va débuter, Damien, on va parler de vous tout à l'heure, mais avant, je veux juste au moins qu'on mette la table. Parlez-moi de votre objectif. Vous êtes au Québec, en Amérique, depuis 3 mois. Combien de temps vous vous donnez pour votre voyage? Puis aussi, pourquoi Ushuaïa en Argentine plutôt qu'un autre endroit? Alors, parlez-nous de votre projet.
Alors, du coup, nous, notre projet, donc, comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois qu'on est arrivé en Amérique. Là, on a passé 3 mois au Canada, on a traversé le Canada d'est en ouest. Et maintenant, l'idée et le projet, c'est de descendre jusqu'en bas de l'Amérique, donc en bas de l'Argentine, côté Ushuaïa, par la route avec notre van. Et c'est un projet... pour lequel on parle avec Ambrine depuis maintenant pas mal d'années, on va dire ça fait 3-4 ans qu'on y a beaucoup réfléchi. Et du coup, il y a 4 mois, on a franchi le pas et on est venu sur votre continent pour faire ce grand voyage, sachant que pour Ambrine et pour moi, c'était un peu aussi, on va dire, un rêve d'enfant. Pour beaucoup, beaucoup d'Européens, je pense, l'Amérique, c'est vraiment le rêve ultime pour faire un voyage comme ça.
Mais pourquoi avoir choisi, en fait, après Ushuaïa, corrigez-moi si j'ai tort, mais là, on est complètement au bout. Là. Après, c'est l'Antarctique. Là. On ne peut pas aller plus loin que ça. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là?
C'est ça. Alors, pourquoi avoir choisi Ushuaïa? En fait, c'est assez simple. Moi, j'étais très, très attiré par l'Amérique du Sud, aussi beaucoup par l'Amérique du Nord. Et Ambrine, pour le coup, était très attirée par l'Amérique du Nord. Du coup, on s'est dit, en fait, c'est parfait, hein. On va se donner le temps et on va se donner les moyens et on va traverser tout le continent pour essayer de voir le plus de pays possible, mais tout en prenant notre temps aussi.
Et vous vous donnez combien de temps pour atteindre votre objectif?
Alors, on se donne à peu près 18 mois.
Oh, quand même! Bon, alors vous avez amplement le temps, mais en même temps, 18 mois, ça va passer rapidement. Donc ça, c'est votre objectif et on pourra en parler un petit peu plus tard parce qu'on peut vous suivre sur YouTube, on peut vous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, mais avant ça, maintenant, on connaît votre objectif, on connaît le temps que vous allez y mettre, mais parlez-moi de vous. On va commencer par le commencement. Parlez-moi de vous. Qui êtes-vous, Damien et Ambrine? Vous êtes des Européens, mais vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où?
Alors nous, on est tous les deux, on est Européens, on est Français. Avant de partir, on habitait à Lyon, donc à peu près au centre de la France. Donc Ambrine, elle fait des études économiques, donc elle travaillait dans un bureau pour rédiger des études économiques. Et moi, je travaillais dans un bureau de conseil en tant qu'ingénieur conseil dans l'efficacité énergétique. Donc ce que je faisais en gros, c'est j'aidais des industriels français à trouver des solutions pour réduire leur consommation d'énergie, réduire leur consommation de déchets et mieux gérer toute cette partie environnement.
Et là, je ne veux pas vous poser des questions personnelles, mais je vais quand même le demander. Est-ce que vous travaillez encore sur la route? Êtes-vous en télétravail ou vous avez mis votre carrière sur pause le temps du voyage?
Alors, nous, on est assez chanceux parce qu'on a pu continuer à travailler. On peut continuer et on travaille encore pour nos entreprises françaises, mais on va dire sur un temps très, très partiel, vu qu'on travaille en moyenne un jour à deux jours par semaine.
Ah, c'est le bonheur, ça!
C'est ça, voilà. Et du coup, c'est comme ça en partie qu'on arrive à financer ce voyage.
Ben oui, effectivement. Parlons des préparatifs, parce que la raison pour laquelle je voulais parler avec des gens comme vous, c'est que, évidemment, il y a tout le côté préparation avant et ça implique beaucoup de choses. Je veux que vous me parliez aussi du fait de transporter son véhicule dans un bateau. Alors allons-y par la première étape. Avant de décider, avant le jour J, avant de partir, là, il y a combien de mois de préparation pour Ambrine et Damien?
Alors, de mois de préparation, comme je l'ai dit, en fait, nous, ça faisait plusieurs années qu'on en parlait. On va dire que officiellement, on a annoncé, on va dire, cette nouvelle à nos proches, à nos entreprises, il y a à peu près un an. Et ensuite, on va dire qu'en préparatif, en fait, c'est beaucoup de choses qui se faisaient petit à petit. Il y a pas mal de choses à préparer. Je pense que ça peut se préparer en réalité en quelques mois, en 3-4 mois, on peut très facilement préparer tout ce qu'il y a à préparer pour un voyage comme ça. Vous parliez de faire shipper le véhicule. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut préparer plus en amont parce que les bateaux sont très vite complets. Et si on s'y prend au dernier moment, surtout si on veut partir sur ces périodes un peu estivales, y a vite plus de place. Mais on va dire que 3-4 mois en avance, je pense que si on s'y prend 3-4 mois en avance, on peut déjà on peut tout préparer.
La question que tous se posent justement pour mettre qu'un véhicule soit transporté par bateau de France jusqu'au port d'Halifax au Canada, est-ce que c'est dispendieux? Est-ce que c'est un gros investissement?
Alors, j'avais ressorti le devis, donc il y a pas mal d'entreprises, je crois qu'il y a deux ou trois entreprises qui en fait gèrent cette partie pour les particuliers comme nous, parce que pour envoyer en fait son véhicule en bateau, c'est des bateaux, c'est du fret en fait, c'est des bateaux de marchandises. Donc on peut pas simplement contacter le port ou l'entreprise, il faut passer par des prestataires. Et nous, pour un véhicule comme le nôtre, donc nous on a un pick-up avec une cellule sur le dessus. Donc, en fait, ça se calcule au volume. Donc notre véhicule il faisait 35 mètres cubes et pour ces 35 mètres cubes on a payé à peu près 3000 euros. Donc 3000 euros, je dirais que ça doit faire 3600, 3900 dollars canadiens sûrement à peu près.
Et ça, c'est pour l'aller. Donc, vous allez payer la même chose pour revenir.
C'est ça. Ça, c'est uniquement pour l'aller. Alors, nous, pour revenir, pour être tout à fait transparent, quand on arrivera en bas d'Ushuaïa, on pense qu'on vendra le véhicule à des voyageurs qui veulent faire le chemin retour. Donc, on ne fera sûrement pas le retour en bateau. On vendra juste le véhicule une fois qu'on sera arrivé en bas de l'Argentine.
Oui, ce qui est une bonne idée, effectivement, parce qu'aller en Antarctique avec votre véhicule, c'est inimaginable. Vous disiez, vous avez dit que c'est un pick-up sur lequel vous appelez ça une cellule. Ici, on appelle ça une caravane portée. Donc, je veux juste être certain qu'on parle de la même chose. Vous appelez ça une cellule, mais c'est une espèce de caravane, mais qui est à l'intérieur de la boîte du pick-up, c'est ça?
C'est ça, oui, c'est exactement. C'est ce que vous appelez des campeurs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'en voit pas beaucoup en Europe, mais on en a vu énormément quand on est passé au Canada.
Le choix du véhicule, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui a fait, Damien, que vous avez opté pour ce type de véhicule-là?
Alors, pourquoi on a choisi ce véhicule? Donc, nous, c'est un véhicule qu'on a acheté. On l'a acheté un an avant de partir parce qu'on voulait voyager un peu en Europe le week-end et les vacances. Et on va dire que nous, on avait chacun un peu nos critères. C'est-à-dire que Ambrine, les critères qu'elle avait, c'était qu'elle voulait absolument qu'il y ait une douche et des toilettes dans la partie camper. Et si possible, que tout ce qui est cuisine et lit, ce soit des choses permanentes. Donc, on ne soit pas obligé de défaire le lit à chaque fois ou installer la cuisine. Et moi, j'avais le critère que je voulais absolument qu'on ait un véhicule 4x4 pour pouvoir sortir des sentiers battus, faire le maximum de off-road. Et on savait qu'une fois arrivé Même déjà au Canada et aux États-Unis, on a fait quelques pistes off-road. Mais dès qu'on commencera à arriver en Amérique centrale, Amérique du Sud, on aura beaucoup de pistes off-road et donc le 4x4 devient presque obligatoire.
Ouais. Ben, pour avoir suivi quelques-uns de vos épisodes sur YouTube, effectivement, j'ai vu des endroits où moi qui est dans un véhicule classe B sur un Ram Pro Master, qui est en fait un camper van, c'est inimaginable pour moi. Parlant du véhicule, et c'est quelque chose qui m'a frappé dans l'une de vos vidéos, c'est quelque chose à laquelle il faut penser parce qu'il vous est arrivé une péripétie quand vous étiez au Nouveau-Brunswick. C'est votre transmission qui vous a lâché, si je ne me trompe pas. Et c'est quelque chose à laquelle on doit penser lorsqu'on voyage. On se doute très bien qu'on aura des ennuis mécaniques, ça peut arriver. Mais en même temps, la surprise que vous avez eue, c'est que des pick-up Nissan en Amérique, il y en a, mais le modèle que vous avez, il n'existait pas.
Oui, c'est ça. On avait en fait avant de partir, on avait fait préparer le véhicule chez on va dire un professionnel du 4x4 qui nous avait dit que notre embrayage, il arrivait presque en fin de vie, mais que normalement il devrait pouvoir tenir encore 20 ou 30 000 km facilement. Donc nous on s'est dit bon ben on changera l'embrayage à la fin des États-Unis et pas de chance au bout d'une semaine de voyage, ben, l'embrayage a lâché. Et du coup, on a dû le changer. Et en fait, ouais, le problème, c'est exactement ce que vous disiez, c'était que le garage chez qui on est allé, qui était vraiment très bien, extrêmement gentil, et ben, en fait, connaissaient pas trop le véhicule et ils avaient peur de commander une pièce qui serait pas la bonne. Donc, ils nous ont demandé, de passer par un garage français pour qu'on soit sûr d'avoir la bonne pièce.
Oui, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Dernière question concernant justement le fait d'arriver avec un véhicule européen en Amérique. Est-ce que au niveau des assurances, est-ce que au niveau des papiers, est-ce que c'est compliqué ou pas vraiment?
Alors, au niveau des. Alors, ce qui est compliqué, effectivement, quand même, c'est au niveau des assurances. Parce que toutes les assurances, déjà, les assurances sont pas toujours très, on va dire, motivées à assurer quelqu'un qui n'est pas résident, soit au Canada, soit aux États-Unis. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il y a des assurances qui le font. Malheureusement, nos véhicules un peu pick-up, camper, elles le connaissent pas, elles le considèrent pas comme un camping-car, donc aussi difficile. Nous, du coup, on est passé par une assurance. Alors, Seguro Gringo, je crois. C'est une assurance. Alors, ça peut paraître fou, hein, mais c'est une assurance mexicaine qui assure en fait sur le continent canadien et américain. Et il y a beaucoup d'Européens en fait qui passent par cette assurance parce que sinon c'est très très compliqué de réussir à se faire assurer pour nous par des assurances comme vous avez au Québec, Québec aux États-Unis.
Effectivement, c'est drôle de savoir que c'est une compagnie d'assurance mexicaine. Et bon, vous allez passer par le Mexique, là, vous avez fait le Québec, vous avez fait le Nouveau, en fait, vous avez fait le Canada. On va en reparler dans quelques minutes, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est la langue. Vous êtes des Français, vous êtes arrivés au Québec. Fait que là, il faut apprendre un peu le québécois, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a l'anglais, il y a l'espagnol. Est-ce que vous vous êtes déjà préparé? Vous avez appris les langues ou vous vous êtes dit, ben, on va parler anglais et ça devrait passer?
Alors, pour l'anglais, ça, il n'y avait pas de problème. On parle tous les deux anglais. Moi, pour mon travail, en fait, en France, je me déplaçais beaucoup en Europe. Donc, je faisais déjà professionnellement de l'anglais. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Par contre, c'est vrai que pour l'espagnol, bah, pour être transparent avec vous, ça fait un an qu'on se dit qu'on doit apprendre l'espagnol. Et petit à petit, à chaque fois, on décale en se disant, bon, il nous reste 6 mois, bon, il nous reste 3 mois. Et maintenant, on se dit, bon, bah, il nous reste 2 mois pour apprendre l'espagnol. Donc l'espagnol, on en est là. Il nous reste 2 mois pour commencer à apprendre l'espagnol.
Ah, ouais, c'est l'histoire de ma vie, ça. Moi aussi, je vais apprendre l'espagnol depuis très longtemps, puis j'ai pas encore commencé. Ben alors, dites-vous, vous êtes sûrement pas les seuls, mais au moins, si vous avez une base d'anglais, déjà, ça va aider. Mais c'est certain que quand vous allez arriver plus bas en Amérique du Sud, l'anglais sera pas pratique partout, puis le français, ben peut-être encore moins. Alors, effectivement, vous devrez prendre vos cours. Bon. Vous êtes arrivé ici, moi je vous ai suivi, là, j'ai regardé vos épisodes quand vous étiez Nouveau-Brunswick, quand vous êtes passé par le Québec, vous avez été à Québec, vous êtes allé à Montréal, vous avez même été dans un comic club qui s'appelle Le Bordel, et que les Québécois, on connaît pas mal à Montréal, et j'ai bien ri quand j'ai vu qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, c'est normal, parce que déjà en partant, l'accent québécois n'est pas nécessairement facile, et quand c'est un humoriste qui sort son gros québécois, ça se peut bien que tu ne comprennes pas mon grain. Mais bon, alors ceci étant dit, comment avez-vous apprécié votre séjour au Canada? Parlez-moi de vos coups de cœur que vous avez eu ici.
Et ben, le séjour au Canada, alors on l'a très apprécié. D'ailleurs, on avait commencé par le Canada parce qu'on s'était dit que ce serait le pays parfait pour se lancer un peu vraiment dans cette aventure van life. Et je pense que ça confirme ce qu'on pensait. Parce que, alors bon, déjà sur les personnes, sur nos 3 mois au Canada, on a vraiment rencontré que des personnes qui ont été toujours super gentilles, super avenantes avec nous. On n'a jamais eu aucun problème. On n'a jamais eu aucun mauvais retour avec une personne au Canada. La vie van life au Canada, je la trouve assez, enfin vraiment bien parce que bah, pour trouver des spots pour dormir, pour vider les eaux usées, se recharger, vous avez énormément de choses, que ce soit dans les parcs nationaux, les stations essence, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément en France, enfin pas autant. Donc sur ce côté-là, c'était vraiment top. Et après, nos coups de cœur dans le Canada, je pense que nous, nos vrais coups de cœur, alors il y a ben, toute la région autour de Tadoussac et la Gaspésie, ça c'était vraiment magnifique. Et enfin, pour nous, pouvoir se mettre sur un rocher près de Tadoussac et voir des baleines, des dauphins passer devant nous, c'était la première fois, donc c'était complètement fou. Donc ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et après, je pense que notre autre très gros coup de cœur sur le Canada, c'était les Rocheuses, où on a trouvé ça aussi vraiment magnifique. Et même chose, un peu encore une fois, ce côté animalier, voir des ours un peu comme ça, sans être dans un zoo ou autre, juste voir un ours d'un coup apparaître devant soi, je pense que pour vous, c'est fou, mais alors pour nous, Européens et Français, c'est vraiment complètement fou.
Ben, en fait, Damien, je vous dirais, on est toujours impressionné lorsqu'on voit des ours. Vous avez une chance. Moi, je n'ai pas encore fait l'Ouest canadien, les Rocheuses. Je les ai fait en hiver. J'ai fait du ski à Jasper, j'ai fait du ski à Whistler, j'ai fait du ski à Banff, mais ce sont des endroits que je n'ai jamais fait en été, alors je vous envie énormément. Des ours, moi, j'en ai vu en Gaspésie, dans le parc de la Gaspésie, j'en ai vu quelques fois, mais j'avais plus peur de les rencontrer que de les voir. Alors, c'était autre chose. Mais ceci dit, je ne suis pas étonné lorsque vous me dites que vous avez adoré les Rocheuses. C'est l'une des parties de notre pays qui est magnifique. Notre province du Québec aussi, ben, elle est magnifique. Vous parliez de la Gaspésie. Moi, je suis natif d'une petite ville qui s'appelle Rimouski, mais je sais que vous ne l'avez pas vue parce que vous avez pris le bateau à Matane. Donc, ce sera peut-être pour une autre. Je vous ai vraiment suivi, Damien. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Mais effectivement, Tadoussac, les baleines,
Ah, c'est bien, c'est bien.
c'est vraiment un endroit magnifique. Vous êtes maintenant aux États-Unis depuis quelques semaines. À quel endroit êtes-vous maintenant?
Alors, on n'est pas très loin du parc de Yellowstone, à une ville qui s'appelle Twins Falls, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On est à peu près à 3-4 heures du parc de Yellowstone.
Et quelles sont les prochaines étapes pour Damien et Ambrine?
Et ben là, du coup, prochaine étape, donc on va passer 3 mois aux États-Unis. Et donc là, l'idée, ça va d'aller passer quelques jours, voire même peut-être une semaine ou un peu plus à Yellowstone. Et ensuite, on va redescendre vers l'Utah pour faire un peu tous les parcs nationaux qu'il y a autour de cette région. Et ensuite, on reviendra vers la côte pour aller faire San Francisco, Los Angeles, et ensuite rentrer au Mexique pour aller faire la Basse Californie.
Vous avez parlé de vos 3 mois et je sais que les douaniers américains vous l'ont dit. Vous avez un visa de 3 mois et lorsqu'on vous dit dépassez le pas, c'est pas des blagues. Conseil, ne le dépassez pas. Un endroit que je vous conseille dans le Utah, si, je ne sais pas si Ambrine et vous êtes des amoureux des animaux. C'est un endroit que peu connaissent, mais si vous aimez les animaux, je vous invite à aller visiter Best Friends Animal Society. Best Friends Animal Society. C'est un endroit magnifique où, en fait, on appelle ça en anglais un no-kill shelter. C'est un endroit où on va recueillir des animaux qui sont soit blessés ou peu importe. On va les aider, mais ils ne vont pas être euthanasiés. Ils vont être soit adoptés ou encore rester sur cet endroit qui est immense jusqu'à la fin de leur vie. C'est vraiment un bel endroit. Alors, si vous aimez les animaux, je vous le recommande fortement.
Eh ben, on aime les animaux et on le note, du coup.
Alors, Best
On
Friends,
rajoute ça à notre liste.
c'est vraiment magnifique et c'est un bel endroit. Mais vous avez Zion, vous avez plusieurs parcs à voir là-bas. Je suis convaincu et j'ai hâte de voir vos vidéos. Si vous aviez des conseils, Damien, à donner à des Québécois qui, eux, veulent, mais faire l'inverse de ce que vous faites. Vous avez parlé tout à l'heure, puis je trouve ça intéressant, qu'ici, il y a beaucoup d'endroits pour se vidanger ou quoi que ce soit. Alors, s'il y a un Québécois qui nous écoute, puis qui, lui, a comme projet d'aller du côté européen, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil?
Alors, ce que je lui donnerais comme conseil, c'est de se lancer et de le faire. Par contre, le gros conseil que j'ai à donner, c'est que nous, typiquement, alors ceux qui ont vu les vidéos, vous verrez à peu près la taille du véhicule. Notre véhicule pick-up plus camper, ici, depuis qu'on est au Canada, on est considéré un peu comme un petit véhicule en quelque sorte. En France, on est quand même considéré comme un véhicule pas gros, mais on commence à être un gros véhicule. Donc, venir en Europe avec des très gros vans, ça peut vite être problématique pour trouver des endroits pour se garer. Et je pense que dans certains villages, on peut très vite être mal vu ou mal regardé si on arrive avec des trop gros véhicules.
Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai déjà fait de la radio à Paris il y a très, très longtemps, dans le début des années 90, et pour avoir été me promener un peu, ce qu'on appelait en province là-bas, les routes ne sont pas très larges.
Ouais, je pense que tout se passera bien. Il y aura aucun problème comme on peut avoir aucun problème au Canada. Je pense que vraiment le point d'attention, c'est de pas venir avec un trop gros véhicule en Europe.
Et quel est, selon vous, votre voyage va durer un an et demi. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a un minimum de temps qu'on devrait passer, si on décide d'aller du côté européen ou encore même des Européens qui veulent venir en Amérique? Est-ce qu'un an et demi, c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Est-ce que 6 mois pourraient faire? Est-ce qu'il y a une limite, pas une limite, mais un minimum de temps que vous conseillez?
Ah, c'est une question assez difficile parce que, bon, j'ai envie de dire que plus on attend, mieux c'est, parce que comme ça, on peut plus profiter. Après, je pense que si on vient en Europe et qu'on vient sur des plus petites périodes, on va dire 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça sera surtout à faire un choix. C'est est-ce qu'on va aller jusqu'au Portugal et en Espagne, qui sont des régions magnifiques, ou est-ce qu'on va plutôt aller faire l'Est de l'Europe? C'est sûr qu'on ne pourra pas tout faire en 3 mois, même en 6 mois. Donc après, je pense qu'il faudra faire des choix.
Donc, vous êtes pour les 3 prochains mois, vous allez passer l'automne du côté des États-Unis, par la suite le Mexique. Est-ce que vous avez déjà en tête un mois ou une date, en fait ça va être en 2023, pour votre point d'arrivée, là, vraiment à votre destination Ushuaia?
Alors, Ushuaia, on aimerait y arriver si possible dans les 18 mois en partie, là, vers janvier, décembre 2023, du coup janvier 2024, parce qu'en fait c'est la bonne saison, c'est maintenant. Ça c'est quelque chose où il faudra qu'on fasse attention avant d'y arriver, c'est qu'à Ushuaia il y a vraiment une bonne saison qui me semble est autour de Noël, et après il y a une autre bonne saison je crois un petit peu plus tard, mais après sinon dès qu'on sort de ces bonnes saisons, on arrive dans des saisons où il peut faire très froid, des tempêtes un peu fortes, donc on va essayer de se tenir à ça, à ce janvier 2024.
Moi, honnêtement, je vais être transparent avec vous, Damien. Je n'avais aucune idée de où était Ushuaia avant de vous connaître. Donc, j'ai fait mes recherches, je suis allé voir des vidéos. et c'est drôle parce que j'ai trouvé plein d'Européens qui veulent aller là. Il y a un autre Européen, je ne me rappelle pas de son nom, mais qui est aussi sur YouTube. Et lui aussi, son voyage, c'est pour aller là. Je ne sais pas, peut-être que vous allez le rencontrer. Et à toutes les fois, je me disais, mais il n'aurait pas pu trouver un endroit qui est plus facile à prononcer. Mais bon, je vous respecte dans votre choix. Parlez-nous, en terminant, des endroits sur lesquels on peut vous suivre. Vous êtes sur YouTube et Facebook. Bref, où est-ce qu'on peut vous suivre, Damien et Ambrine, avec votre projet?
Eh bien, alors, du coup, on partage toutes nos aventures. Alors, sur YouTube, à raison dans une vidéo par semaine, où on peut suivre vraiment l'avancement et on partage tout, donc ce qui se passe bien comme ce qui se passe moins bien. Et ensuite sur Facebook et Instagram, on partage plus tout ce qui va être soit du photo, soit des contenus un peu plus instantanés, donc des stories sur, par exemple, il y a quelques jours, on a dormi sur un désert, dans un désert au milieu des États-Unis. Donc, on va partager des contenus un peu plus comme ça.
Je vous ai perdu quelques instants, mais on a compris que c'était sur Instagram aussi et sur Facebook. Et sur toutes ces plateformes-là, c'est toujours le même nom, Objectif Ushuaia?
C'est ça, oui. Ça sera toujours Objectif Ushuaia.
Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça se prononce, en fait, non, pas comment ça se prononce, mais comment ça s'écrit, c'est U-S-H-U-A-I-A, U-S-H-U-A-I-A. C'est comme ça que vous allez trouver sur les différentes plateforme pour suivre leurs aventures. Damien, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ces informations-là et vos aventures que vous faites avec votre conjointe Ambrine. Merci d'avoir participé à la Zone Van Life. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite de ne plus avoir d'ennuis mécaniques, et de vous amuser et profiter pleinement de cette chance que vous avez de pouvoir découvrir le continent nord-américain et sud-américain. Et on vous dit merde pour la suite et au plaisir peut-être de se reparler dans la zone Van Life.
Eh bien, merci beaucoup et merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas.
Je garde vos coordonnées.
Ça marche.
Ben voilà, j'espère que cet épisode de la zone Van Life vous a plu. Vraiment sympathique, ce Damien. Honnêtement, il me donne le goût. Pas encore prêt, mais peut-être qu'un jour, on traversera du côté de l'Europe. À la prochaine, les Van Lifeux. Bye bye. La zone Van Life.